Bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Karen Wourck. Bonjour.
Bonjour.
Je vous reçois à l'occasion notamment d'un concert qui sera donné le 10 octobre prochain dans la cathédrale Saint-Louis des Invalides. Vous serez aux côtés de l'orchestre d'Auvergne, placé sous la direction de Roberto Forés-Vessès pour des chants d'Auvergne de Canteloube. Alors une œuvre qu'on n'entend jamais intégralement chanter, Karen Wourck. Vous avez choisi des extraits en particulier.
Oui, c'est ça, il y a 5 livrets, donc mais voilà, j'ai choisi certaines pièces en collaboration avec le chef. Voilà, j'en ai choisi suffisamment différentes quand même pour que le programme soit attrayant et que ça passe de mouvements lents à des mouvements très rapides, puisqu'il y a des bourrées, il y a des mouvements très lents. Voilà.
Et comment on travaille cette œuvre, sa langue qui est quand même si particulière?
Il y a en amont de chaque partition, il y a vraiment un glossaire avec de façon didactique, expliquer chaque phonème, la prononciation. Et puis après, on voit que ça se ressemble. Et je trouve qu'avec avec l'italien, avec moi, mon grand-père, ça lui arrivait des fois de parler, surtout quand il s'énervait, en fait, un patois provençal. Donc c'est aussi quelque chose que j'ai l'habitude d'entendre. En fait, il était d'Avignon. Et voilà, ça ressemble, en fait. C'est...
Donc c'est une œuvre qui a été constituée par des chants en fait, qu'il avait recueillis dans les années 10-20, et puis après qu'il a mis en musique, enfin réorchestré, notamment entre l'avant-guerre et l'après-guerre. Donc c'est quoi? Ça vous évoque d'autres compositeurs comme Bartok ou d'autres
Oui, il y a Bartok, il y a Natchek, il y a aussi le père Komitas en Arménie qui avait fait ça, qui avait collecté beaucoup de chants arméniens. Et qui les avait après orchestrés, et ça a donné lieu d'ailleurs à des mélodies superbes. Et c'est vrai que Canteloube, oui, je crois qu'il a commencé au début 20e à collecter. La première était Pastourelle, je crois. Et puis, c'est vrai que ce qui est intéressant et très beau dans ces chants, la mélodie reste toujours très simple. Il faut vraiment la chanter. C'est très lyrique, même si c'est très central, mais c'est très lyrique. Et l'orchestration est sublime, parce qu'on entend vraiment, on entend les pâturages, on entend les vaches. C'est vraiment très intéressant. Et je trouve que quand on le chante avec orchestre, on sent que l'orchestre a vraiment du plaisir à le jouer, parce qu'ils sont vraiment mis en valeur.
Oui, puis alors là, sans tomber dans le cliché, en plus vous jouez avec l'orchestre d'Auvergne,
oui, c'est vrai.
Qui est placé sous la direction de son chef, donc Roberto Forés-Vessès, qui le dirige depuis un certain nombre d'années. Je crois qu'il en a fait vraiment une belle formation chambriste, et justement il a à cœur de valoriser au maximum cet orchestre.
Bah oui, je me réjouis, je sais en tout cas, parce que j'ai reçu un petit message de David Walter, donc, qui fait partie de l'orchestre, et on les avait, en fait, David les avait arrangés, pour le quintet Mouragès et Suzanne Manoff et moi. Et on en avait joué peut-être 3 ou 4 au Bouffe du Nord il y a quelques années. Et voilà, donc on est très content aussi avec David là, de se retrouver.
Alors là, on est dans un lieu différent des Bouffes du Nord, puisque ce sera la cathédrale Saint-Louis des Invalides. Donc c'est un lieu quand même... Je ne sais pas si vous y avez déjà chanté.
Si, mais en plus, moi, j'ai une histoire particulière avec les Invalides. Bon, d'abord, j'y ai chanté parce que j'ai été invitée. Ils font souvent venir les victoires de la musique classique. Et puis, j'ai déjà fait des concerts là-bas. Mais mes deux grands-parents, en fait, ont eu une cérémonie aux Invalides. Donc en fait, voilà, j'ai vécu aussi à la mort de ma grand-mère, à la mort de mon grand-père, la cérémonie dans la cathédrale, et j'avais à chaque fois chanté aussi un air arménien d'ailleurs en fait.
Donc un symbole assez fort pour vous que de chanter dans cet endroit. Alors vous parliez des Bouffes du Nord, qui est un lieu, lui, qui est aussi merveilleux, mais qui n'a strictement rien à voir. Un lieu dans lequel on est habitué à vous écouter, Karen Wourck. Notamment avec un spectacle qui a été assez iconoclaste et qui était passionnant, consacré à Schubert et Duke Ellington. Comment c'était venu, ça?
Oui, bon, d'abord, c'est vrai que j'aime beaucoup ce théâtre des Bouffes du Nord. C'est vraiment, je pense que tous les artistes qui s'y produisent... adore l'acoustique, l'énergie, enfin ce qu'on ressent dans ce lieu, la beauté du lieu. Et oui, ce Schumer Ellington, c'était un projet qui est né vraiment de notre amitié avec Louis Rode, le violoncelliste, avec Guillaume de Chassy au piano, qui est un pianiste de jazz, et Thomas Savy, qui est un clarinettiste de jazz aussi. Voilà, c'est né de l'envie de faire quelque chose ensemble et on s'est projeté dans Schubert, dans Duke Ellington et en essayant de faire un programme qui soit pas du tout un fourre-tout de mélodie, mais au contraire, c'était vraiment très réfléchi. Il y avait du Sapin aussi, du Shostakovich, et c'était plutôt, je dirais, d'essence contemporaine, hein, en fait, qu'autre chose, avec des improvisations de notre part, de Guillaume, pour lier les mélodies les unes avec les autres.
Alors après ce détour par cette spectacle, on revient justement à ces chants d'Auvergne, de Canteloube, qui sont, alors au départ, sont des chants non pas simples, parce que c'est des chants traditionnels, mais qui ne sont pas forcément très difficiles à chanter. Mais alors après, lui, il les transforme pour les, non pas classiciser, mais pour rendre ses musiques moins traditionnelles. Et alors, quelle est la difficulté justement pour l'interprète?
Je pense que déjà la difficulté, c'est vrai que les paroles sont très très simples. C'est vraiment des paroles qu'on peut chantonner, je dirais, en travaillant la terre ou un berger en gardant les moutons et qui pense à sa bien-aimée ou à son bien-aimé, puisqu'il y en a des féminines et des masculines de chant. Après, je pense que ce qui est difficile justement, ou en tout cas ce qui est difficile, je ne sais pas si c'est difficile, mais ce qui est intéressant en tant qu'interprète, c'est que c'est presque des chansons qu'on pourrait normalement chantonner, un peu murmurer, alors que là, on doit vraiment les chanter avec orchestre. Donc ça donne une autre ampleur à la voix et en même temps, il faut garder une simplicité. C'est-à-dire que, en tout cas, moi, quand je les chante, j'essaye pas du tout de faire chanteuse d'opéra. Alors la voix est très lyrique, justement, c'est pas du parler chanter du tout, c'est très très lyrique. Mais il faut arriver à garder la simplicité de la ligne, de l'émission, la pureté des voyelles pour que ce que l'auditeur retienne, c'est quelque chose de simple en fait. Une jeune fille qui chante, un jeune berger qui chante, voilà. Après avec l'orchestre, ce qui est intéressant, c'est que l'orchestre est tellement foisonnant de couleurs, d'harmonie, que parfois on est un tout petit peu perdu justement parce que la ligne était très très simple. Mais en dessous, il se passe tellement de choses que voilà, il faut être vraiment à l'écoute de l'orchestre.
C'est une musique que vous aviez travaillée quand vous appreniez ou quand vous étudiez le chant ou alors c'est... Parce que c'est des œuvres, on a l'impression, quand on regarde par exemple la discographie, il y a beaucoup de vos consoeurs étrangères qui ont chanté ces chants d'Auvergne. Il y a une version, je crois, de Kirik Kanawa.
Oui, c'est ça. Mais...
Et en fait, ce n'est pas un répertoire qui est tellement écouté en France.
Moi, c'est vrai que je pense que j'ai rencontré, entre guillemets, Canteloube par un des chants qui s'appelle Bailero et qui était dans un disque que j'écoutais de René Fleming. Après, j'ai vu qu'effectivement, il y a Kirite Kanawa qui l'a beaucoup chanté et elle a beaucoup chanté les chants d'Auvergne aussi. Et oui, il y a quelque chose d'une simplicité qui me plaît beaucoup dans ces chants. Oui, c'est lyrique sans être compliqué, ça reste très populaire, mais c'est très élégant aussi, il y a quelque chose d'élégant.
Mais alors vous en parlez, c'est de la mélodie avec orchestre, en fait, parce qu'on est loin de l'opéra, mais en fait comment vous chantez avec un orchestre sans être une chanteuse d'opéra, c'est-à-dire...
Non, mais je chante comme une chanteuse.
Non, c'est pas ça que je voulais dire, ouais. Je me suis mal exprimé, mais... Justement, vous chantez ça comme de la mélodie, sauf qu'il y a un orchestre à côté.
Oui, mais ça existe, les mélodies avec orchestre.
Enfin, oui, bien sûr.
Il y a beaucoup de mélodies avec...
Mais en même temps, il n'y a pas le côté opératique. Mais peut-être que je m'exprime très mal.
Non, ben, par exemple, si on voit chez Razad avec orchestre, ce sont des mélodies avec orchestre, mais il faut, faut vraiment le chanter comme un grand air d'opéra en même temps. Avec, à des nuances près, parce qu'on peut accommoder, mais... ce que je veux dire, c'est que là, au niveau de la technique vocale, je chante ça comme de l'opéra. Mais c'est vrai que ça reste de la mélodie, donc il faut conserver quelque chose d'intime, quoi. Voilà, c'est plus au niveau de l'interprétation.
Alors vous parliez de Scheherazade, d'ailleurs, que vous allez chanter aussi
oui.
Avec un grand chef, Joseph Pons, qui dirigera l'orchestre des Pays de la Loire. Ouais. Ce sera à Angers, un chef que vous avez rencontré aussi.
Non, je ne l'ai jamais rencontré, mais je suis vraiment très contente de chanter chez...
Vous faites tous les grands chefs espagnols. c'est une coïncidence totale.
Oui, c'est une coïncidence.
Donc, il y a beaucoup de choses quand on voit votre itinéraire à venir. Bon, il y a du récital, il y a de l'opéra. Et puis, il y a aussi une création, une commande de l'opéra comique Hors les murs, Fausse, une création de Franck Kravzik. Alors ça aussi, ça a l'air assez étonnant.
Oui, je crois que ça va être assez fou. On en est au tout début de la création et on commence à se voir avec Franck pour créer la partie vocale. Moi, je sais que j'aurai un duo beaucoup avec Sonia Vider-Atherton, que j'aime beaucoup. Donc, ça sera l'occasion.
Vous aimez bien les violoncellistes.
J'aime beaucoup les violoncellistes. Ouais. J'aime beaucoup le violoncelle et j'aime beaucoup les violoncellistes. Donc, je suis très contente de rejouer avec Sonia. Et on sera accompagné aussi par des pianos, d'autres violoncelles. Et puis, c'est Boltanski, en fait, qui va s'occuper de la scénographie, de la mise en espace. Et Kalman qui fera les lumières. Je pense que ce serait un bel objet de création. Je sais pas encore trop à quoi ça ressemblera, mais la pièce qu'est en train d'écrire Franck, en tout cas, est très très belle. C'est, pour le coup, c'est très très lyrique, très très dramatique. C'est sur un poème de Garcia Lorca, très très beau.
Et alors, comment ça se passe quand un compositeur écrit une œuvre que vous avez créée? Il y a des allers-retours, il vous demande ça, est-ce que c'est possible à chanter? Est-ce que c'est pas trop dur pour toi?
Mais ça dépend des compositeurs, mais là, c'est vrai qu'avec Franck, je suis vraiment gâtée parce qu'il prend le temps qu'on se voit et il a même envie, d'ailleurs, en fait, d'écrire vraiment pour ma voix, pour... Je lui montre un peu toutes les possibilités, même les extrêmes... dans des pianissimi dans lesquels je peux aller, qui peuvent l'intéresser, ou au contraire des fortés, des graves, pour voir l'étendue de la tessiture et les dynamiques. Et donc oui, là, c'est vraiment un travail en commun. Il a écrit la ligne, bien sûr, mais il change beaucoup en fonction, d'ailleurs, pas forcément en fonction de mes possibilités, mais en fonction de ce que lui entend dans ma voix et là où il a envie d'aller avec elle, ma voix.
Alors, on va revenir, faut pas revenir, on va aller vers un de vos rôles, enfin moi qui m'a tellement marqué quand je vous avais vu à l'Opéra Comique, je crois que c'est d'ailleurs, c'était l'anniversaire de la création à l'Opéra Comique, mais enfin c'était le lieu mythique de création à l'Opéra Comique de Pélias et Mélisande, vous incarniez Mélisande dans la mise en scène de Stéphane Braunschweig. Et c'était vraiment, ça a été donné deux fois, enfin deux séries à l'Opéra Comique à 3 ans d'intervalle. C'était une expérience extraordinaire. Enfin, pour nous, c'était magnifique. Et pour vous, à l'époque, c'était... Est-ce que c'était une prise de rôle pour...
Non, c'était pas une prise de rôle. Je crois que quand je l'ai commencé, quand j'ai fait la première en 2010 avec Gardiner et Braunschweig, je l'avais déjà fait à Tours avec Gilles Bouillon, qui est un autre très très grand metteur en scène. Je crois que je ne l'avais fait qu'à Tours, peut-être à Metz aussi, peut-être à Metz. Voilà, mais après, c'est vrai que ça a marqué pour moi le début d'une tournée Mélisande à travers le monde et j'en suis ravie. Hein,
c'est... Et on se retrouve à l'Opéra Comique, comme ça, dans le lieu de la création, c'est incroyable.
Oui, on est tellement bien entouré à l'Opéra Comique, c'est vraiment un cocon, les gens sont bienveillants, il y a eu une grande recherche, ils ont vraiment recherché leur Péléas, leur Mélisande. Je me souviens qu'à l'époque, on a fait plusieurs séances de travail avec John Elliott, Gardiner. Et donc, en fait, une fois qu'on était choisi, on était vraiment choisi, en fait. C'était pas un hasard, parce qu'on avait... eu le temps de se connaître et de savoir que c'est nous qui allions travailler ensemble. Et puis la rencontre avec Stéphane Braunschweig a été magnifique aussi.
Alors Karen, moi c'est un opéra pour lequel j'éprouve une passion absolue, mais j'ai toujours pas compris qui est Mélisande.
Ah, c'est bien ça de pas avoir compris.
Non mais vous, quand vous incarnez un personnage marqué à l'opéra, souvent les personnages sont beaucoup plus complexes que l'impression qu'on peut en avoir, mais c'est quand même un personnage qui reste tellement loin même des autres et de nous,
je sais pas. Oui, parce qu'elle est énigmatique ou parce qu'elle est mystérieuse ou... Mais je pense qu'on a tous en fait cette part de mystère, d'énigme.
Oui, bon, on ne sait pas d'où il vient.
Ouais, on ne sait pas. Est-ce que c'est important finalement de... Bon, moi, je sais qu'à chaque production que que je faisais, je m'inventais en fait un peu mon avant entrée dans les bois, mon avant rencontre avec Golo. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'étais une des femmes de Barbe Bleue? Est-ce que je suis juste une jeune femme qui s'est sauvée? Enfin, il y a beaucoup d'imaginaire qui peut rentrer en compte. Après, moi, j'aime bien dans cet opéra le jouer vraiment au présent, au moment en fait où on dit la phrase, au moment où on le dit, il y a un certain caractère en fait.
En même temps, il y avait dans cette mise en scène de Braunschweig, moi qui m'a aussi beaucoup marqué, il y avait une proximité, enfin l'impression d'être au théâtre. Il y avait pas, on n'était pas dans cette vision forcément évanescente. Il y avait des objets aussi qui symbolisaient les rapports entre les personnages.
Oui.
Et ces tours, même miniatures, enfin, il y avait beaucoup de choses concrètes, en fait.
Mais c'est vrai qu'on ramenait... Stéphane avait voulu vraiment faire de Pélias et Mélisande des personnages vraiment ancrés, en fait, dans le réel, même si, effectivement, il y avait au niveau de la scénographie des éléments particuliers qui dénotait d'un caractère extrêmement véridique. Dans cette mise en scène, effectivement, Péléas et Mélisande étaient comme des enfants qui jouaient. Et on avait vraiment le loisir d'explorer un jeu très réaliste, même si au niveau de la scénographie, il y a des éléments qui n'étaient pas réalistes ou qui dénotaient un peu, pour mettre en valeur justement l'interaction entre les personnages. On s'est vraiment concentré sur les relations avec Golo, avec Péléas, avec Arkel.
Braunschweig est un des grands metteurs en scène avec lesquels vous avez travaillé. Ça se passe comment? Vous attendez énormément, vous, du metteur en scène? Parce qu'on ne va pas citer de nom, on va parler que des gens avec qui ça s'est très bien passé, Karen Wolf. Mais vous attendez d'être beaucoup dirigé par le metteur en scène?
Moi, j'adore, en fait. C'est vrai que j'aime vraiment être dirigée, que ce soit d'ailleurs par un chef ou avec un metteur en scène. Mais vraiment, j'adore en fait. J'adore ça, devenir une espèce de marionnette entre les bras d'un metteur en scène et qui me fasse faire un peu ce qu'il veut. En tout cas, bon, en plus, si ça va dans mon sens. Mais c'est vrai que c'est une relation et c'est un travail artistique que j'aime vraiment beaucoup. Un metteur en scène qui a pas beaucoup de choses à proposer ou qui va dire « bon, faites un peu comme vous voulez », ça peut bien se passer, ça peut être gentil, mais c'est vrai qu'il me manquera quelque chose. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup ça, en fait, la direction qui se passe comme avec Braunschweig, avec Gilles Bouillon, avec d'autres, Ludovic Lagarde.
Oui, vous citez des beaux noms.
Oui. C'est vrai que... Donc voilà, donc je pense que avec Stéphane, il sait ce qu'il veut et donc on était tous prêts à faire un beau travail ensemble.
Vous êtes retrouvés, excusez-moi de revenir encore sur PDS et Mélisande, mais c'est quand même un rôle très très marquant.
Oui.
Vous avez beaucoup marqué dans ce rôle. Vous êtes retrouvés face à plein de golos très différents. Ça modifie totalement votre vision du personnage ou votre manière d'interpréter en fonction de la personne face à laquelle vous êtes?
Alors, ça a pu effectivement un tout petit peu modifier parfois, notamment dans la relation d'épouse à Golo. C'est-à-dire que quand je me suis retrouvée avec des golos, mais parfois parce que le metteur en scène le demandait, assez monolithique, en tout cas au niveau de la brutalité ou de la jalousie, quelqu'un comme ça, j'avais du mal à imaginer que j'ai pu tomber un peu amoureuse ou qu'il peut y avoir quand même un lien avec Golo qui soit de l'ordre de l'amour. Et en revanche, avec d'autres Golos qui montraient aussi une facette très tendre, là, et c'est ça qui est intéressant, je trouve d'ailleurs dans Golo, c'est que là, c'est intéressant, parce qu'on sent que Mélisande, tout n'est pas blanc ou noir. Elle a quand même un lien avec Golo qui est très très fort, qui a été très très fort. Et le lien avec Péléas, c'est différent.
Justement, vous parliez de la direction d'acteur, enfin du metteur en scène. Là, quand on va vous écouter dans les chants d'Auvergne de Canteloube, il n'y a pas de direction. Vous vous retrouvez en tant que chanteuse seule avec l'orchestre et le chef. Est-ce que c'est plus difficile justement de se retrouver comme ça sans avoir quelqu'un qui vous dirige vos gestes et...
Alors, parfois, pour moi, c'est plus difficile, notamment dans l'oratorio, en fait, où... Dans l'oratorio, oui, j'ai parfois du mal à m'exprimer, je dirais, en tant que chanteuse, parce que je sens que je suis juste, entre guillemets, une musicienne. Et pour moi, c'est plus difficile. Pour les chants d'Auvergne, ou pour des mélodies avec orchestre, comme chez Razad, etc., j'y trouve vraiment mon compte, parce que, en fait, je peux exprimer... Alors, par exemple, pour les chants d'Auvergne, chaque mélodie... Voilà, en plus, chaque mélodie des chants d'Auvergne exprime un caractère vraiment très différent. Il y a le bossu, il y a la bergère, il y a, voilà, il y a des personnages différents. Et je sais que je vais pouvoir faire comme une petite scénette d'opéra, en fait, ou de théâtre, avec chaque mélodie. Le lendemain, en fait, je chante les Ariettes oubliées de Debussy.
Ça va, vous faites des belles
Oui, donc ça c'est magnifique. Mais alors, pour répondre à votre question, par rapport aux ariettes, là c'est plus difficile par exemple. C'est un cycle, donc chaque mélodie ne peut pas être un théâtre en soi, quoi, contrairement au chant d'Auvergne.
Et ce sera dans une version avec orchestre, avec l'Orchestre National de Lyon.
Mais oui, voilà, c'est ça. Et je ne la connais pas du tout, cette version avec
Brett
orchestre.
Brett Dean, voilà. Je ne connais cette œuvre que
Australien,
le piano. Et donc, j'imagine que c'est une œuvre depuis longtemps à votre répertoire, mais avec pianiste alors.
Oui, avec pianiste. Et là, j'ai entendu des extraits, puisque ça a été créé pour Magdalena Kojena. Bon, ça a l'air très beau, mais je suis très curieuse.
Et puis, le 4 décembre, un récital Grieg, ou non, je me trompe.
Oui, alors, c'est un récital vraiment scandinave avec Anne Lebozek, dans le cadre d'un festival qui s'appelle Les Nuits Oxygène à Paris. Et c'est un récital qui me tient vraiment à cœur parce qu'on jouera le cycle Auctusa de Grieg et un cycle et, pardon, et des mélodies séparées d'une Norvégienne qu'on a découverte avec Anne, qui est contemporaine de Grieg et qui s'appelle Agathe Bekka Grønhall. Et c'est magnifique. Voilà, c'est magnifique et donc je suis très très heureuse de chanter en norvégien. Et
ah oui, c'est... ça vous avez travaillé
Mon père est norvégien.
Ah pardon.
Voilà, donc mon père est norvégien,
bon,
mais il nous a parlé français. Donc, mais bon, j'ai des bases de norvégien et puis je peux me débrouiller en norvégien.
Mais il y aura du finlandais aussi.
Et il y aura... Oui,
c'est
alors mais
pas en finlandais,
c'est en suédois. C'est en suédois.
C'est quand même différent.
Oui, c'est différent.
Et donc des œuvres de Sibelius aussi, ça,
ouais.
C'est un répertoire quand même, on a hâte d'écouter, parce qu'on ne peut pas dire que ça court les salles de concert.
Mais c'est ça, et c'est dommage, parce que c'est vraiment, c'est de la musique extraordinaire. Et non, je suis vraiment contente de le faire, en plus là, au début de l'hiver, en décembre, ça s'y prête. Il y aura le Grieg qui justement peut faire penser au Canteloube en fait, parce que c'est très, c'est d'inspiration très folklorique. Et les Sibelius qui pourraient presque plus faire penser à du Rachmaninov, en tout cas par le lyrisme. Voilà, c'est vrai que moi, je suis habituée à écouter en fait ces répertoires, mais je me rends compte quand je les chante que beaucoup de public ou d'auditeurs sont pas habitués. Mais en revanche, ils sont souvent tous conquis par la musique, quoi.
Non, mais en plus, Sibelius, ça aussi, c'est quand même sous-joué en France. Même les symphonies, à la limite la deuxième, mais la quatrième ou la septième, qui sont des chefs-d'œuvre absolus, on les a. Et puis la musique pour piano, ses mélodies.
C'est vrai, non, c'est vrai, c'est vrai.
Alors, pour en revenir à Scheherazade, parce qu'on parlait de Canteloube,
ouais.
Avec la caractérisation de chaque mélodie, Scheherazade, on est quand même loin de ça. C'est-à-dire que c'est quand même aussi une musique. Enfin, je ne vais pas encore ramener ça à Mélisande, mais c'est aussi. Il y a une distance. Enfin, c'est aussi un être assez évanescent tel que on l'entend chez Ravel.
Ah,
il y a la sensualité.
Oui, c'est ça. Il y a quand même chez Razad. Enfin, en tout cas, l'orchestre est tellement fourni que faut, en tout cas, vocalement, faut le chanter, quoi, vraiment. Hein. Après, ça a toujours cette espèce de clarté et effectivement de brillance que peut avoir une Mélisande, enfin que peut avoir qu'on peut retrouver chez Debussy, mais elle est plus, c'est plus, c'est plus costaud quand même que Mélisande. Peut-être l'indifférent, le dernier, est effectivement plus d'inspiration.
Non, mais excusez-moi ouais. d'avoir l'air obsessionnel et de tout ramener Mélisande. Mais c'est vrai que votre nom était tellement lié à ce personnage qu'on a tendance, même quand vous jouez de tout autre répertoire,
ah, mais j'adore. Non, mais
à revenir
de toute façon, c'est...
vers cet univers. Donc, vous serez le 10 octobre prochain à 20h dans cette cathédrale Saint-Louis des Invalides. Comment ça se passe, vous, Roberto Forest-Vessès, qui est un chef absolument passionnant. Quand on prépare un concert comme ça avec un chef qu'on n'a pas encore rencontré, vous échangez beaucoup en amont sur la manière dont vous allez concevoir ses œuvres
Mais là, on a échangé surtout pour le choix. Puisque on a dû quand même en choisir une dizaine parmi 35 ou 40. Et puis on n'a malheureusement pas pu se voir. On voulait se voir en amont juste pour travailler au piano. On n'a pas pu à cause de nos agendas. Voilà. Mais on va se voir. Moi, je vais aller à Clermont-Ferrand. En fait, on répète à Clermont-Ferrand avec l'Orchestre d'Auvergne.
C'est un programme que vous donnerez aussi
non.
avec eux
non. A priori, non.
Ce sera uniquement Paris.
Oui, on verra. Mais non, a priori, c'est que à Paris, là. Ouais.
Donc, vous allez travailler là-bas avec eux, mais vous connaissez visiblement déjà au moins un musicien de l'orchestre.
C'est ça. Et puis, peut-être que j'en connais d'autres, parce que parfois, au fur et à mesure, on connaît un peu les musiciens de l'orchestre.
Alors on a parlé, on a évoqué beaucoup de choses. On a évoqué cette fameuse création de l'opéra comique Hors les murs. Ce sera donné, vous m'avez dit, sur le parking de Beaubourg.
Voilà, alors c'est le parking. Alors, c'est pas vraiment le parking public, c'est-à-dire que c'est le parking où vont les gens qui entreposent les œuvres de Beaubourg. Mais bon, c'est la même chose que le parking public. Hein, donc, mais ils ont vraiment envie de jouer avec ça parce que l'idée, c'est de créer un opéra sans qu'il y ait du tout les conditions pour. Donc là, il n'y aura pas du tout les conditions pour. Il fera froid, ça sentira peut-être l'essence. Ce sera, je pense, des conditions quand même assez difficiles, aussi pour les violoncellistes et pianistes, hein, pour les doigts quand il fait froid, pour les mains, ce n'est pas facile. Voilà, mais moi, je suis toujours prête pour des projets farfelus, donc...
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression que vous partagez entre des choses, justement le répertoire. Vous avez même chanté du Wagner. Et puis ce répertoire, justement, qui sort, on parlait de Schubert, du Clinton,
oui.
Ça, c'est une oxygène nécessaire.
Oui. Alors, le Schubert-Clinton, c'était aussi pour se retrouver, je dirais, en petit comité, en fait. Parce que c'est vrai que dans les productions d'opéra, on arrive... on connaît personne, quoi, souvent, donc c'est aussi sympa de faire de la musique à quatre ou à deux en récital quand on connaît bien le musicien avec lequel on joue. C'est vraiment d'autres conditions et très agréable. Puis je crois que j'aime bien les prises de risque, en fait, sinon je m'ennuie un peu. Donc j'aime bien la musique contemporaine, j'aime la difficulté de la partition. Tout ça, c'est vrai que ça me plaît. Je dirais que c'est source de liberté, en fait, aussi pour moi. Plus l'entreprise est difficile au départ, plus ça me donne une liberté vocale et scénique. Ouais.
Et alors, on va terminer avec un autre chef-d'œuvre que vous donnerez avec des membres de l'Orchestre de Paris, une œuvre de Zemlinsky.
Oui, voilà. Alors, c'est tout nouveau et ce sera au Musée d'Orsay en janvier. C'est une très belle œuvre de Zemlinsky. Ça sera pour sextuor avec les membres de l'Orchestre de Paris. C'est vrai que j'aime beaucoup ce compositeur.
Vous avez chanté dans Le Nain.
Voilà, et ça reste vraiment un très très beau souvenir, ce rôle de l'infante dans Le Nain de Zemlinsky que j'avais fait à l'Opéra de Lyon.
C'était une mise en scène mémorable aussi. Enfin, c'était un spectacle important aussi.
Ouais, ouais, ouais. D'abord, et puis l'œuvre.
Malheureusement, très peu donnée en France. Il y avait eu aussi à l'Opéra Garnier, mais c'est une œuvre sublime et qu'on n'a pas souvent l'occasion d'écouter.
Ouais, c'est vrai. C'est très, très beau. Et non, je suis très contente de retrouver Zemlinsky. Et je sens que d'ailleurs, c'est pas un tournant que je prends puisque je l'ai chanté déjà il y a quelques années avec Le Nain, mais. Je sens que vraiment ma voix va bien vers Zemlinsky. Là, je chanterai aussi des Berg un peu plus tard dans l'année en Allemagne. Voilà, toute cette mouvance de Zemlinsky, Berg, Strauss, ça me...
Parallèle
voilà.
À l'école de Vienne.
Oui, c'est vraiment des compositeurs qui me plaisent et je pense qu'ils vont bien à ma voix ou à ma sensibilité. En tout cas, ouais.
Non, vous pouvez dire.
Non, mais c'est, je pense que c'est finalement, au final, c'est plus une question de sensibilité, voilà, que d'être attiré par Shostakovich ou Zemlinsky plutôt que d'autres.
Shostakovich, qu'on espère vous écouter avec Louis Rod et les deux autres membres du trio.
Oh, alors ça serait.
Karenine, ouais. Fanny Robillard.
Ça serait chouette. Ouais, ouais.
Et Paloma.
On a l'envie. Donc, ouais.
Poème d'Alexander Bloch, ça aussi. Alors, ça fait quand même beaucoup de langues, parce qu'on a, on a parlé du suédois, du norvégien, de l'allemand, du français, de la langue doc. Ça fait beaucoup. Comment vous...
Mais d'abord, j'aime les langues. Norvégien, suédois, j'ai pas beaucoup d'excuses, parce que bon, c'est quand même familial. L'allemand, j'ai appris à l'école. Le russe, en fait, j'aime tellement la musique russe, la mélodie, l'opéra, que quand j'ai commencé à chanter, en fait, j'ai fait un DU de russe à la Sorbonne pour apprendre en tout cas les rudiments de russe. Donc, je parle pas, je suis pas du tout bilingue russe, mais bon, je sais lire, écrire et j'ai un peu de vocabulaire. Et c'est plus tout le côté quand même, je me rencontre slave nord au niveau des langues que le sud. Mais ben, par exemple, la création de l'opéra comique, ça sera en espagnol, en revanche.
Ah bah, donc, j'avais oublié cette langue, ça,
voilà.
J'ignorais que c'était en espagnol.
Sur un poème de Garcia Lorca, absolument oui. Sublimissime.
Eh bien, on va se séparer en évoquant cette création. En tout cas, je rappelle ce concert le 10 octobre prochain dans la cathédrale Saint-Louis-Invalide, aux côtés de l'orchestre d'Auvergne sous la direction de Roberto Forest Vesses. Vous interpréterez certains des chants d'Auvergne de Canteloube. Il y aura aussi au même programme, mais ça vous participez pas, à moins que on vous mêle dans les instruments à cordes une adaptation des souvenirs de Florence de Tchaïkovski.
Je peux danser peut-être.
Bah, voilà. Écoutez, je ne sais pas ce qui est prévu. C'est une musique que vous chantez, Tchaïkovski?
Bon, j'ai travaillé moi Tatiana et puis j'ai chanté des mélodies de Tchaïkovski, magnifique, la berceuse par exemple, qui est absolument sublime.
Bon, bah, en attendant, ce sera pour une autre fois, parce que là, ce sera que les chants d'Auvergne, ce qui est déjà beaucoup.
C'est ça.
Vous remercier infiniment d'avoir été
merci.
Mon ami.